Féliciter Robert de Lamennais. Parole d'un croyant. 12. Lorsqu'un de vous souffre une injustice, lorsque, dans sa route à travers le monde, l'oppresseur le renverse et met le pied sur lui, s'il se plaint, nul ne l'entend. Le cri du pauvre monte jusqu'à Dieu, mais il n'arrive pas à l'oreille de l'homme. Et je me suis demandé, d'où vient ce mal? Est-ce que celui qui a créé le pauvre comme le riche, le faible comme le puissant, aurait voulu ôter aux uns toute crainte dans leurs iniquités, aux autres toute espérance dans leur misère? Et j'ai vu que c'était là une pensée horrible, un blasphème contre Dieu. Parce que chacun de vous n'aime que soi, parce qu'il se sépare de ses frères, parce qu'il est seul et veut être seul, sa plainte n'est point entendue. Au printemps, lorsque tout se ranime, il sort de l'herbe un bruit qui s'élève comme un long murmure. Ce bruit, formé de tant de bruits qu'on ne pourrait les compter, est la voix d'un nombre innombrable de pauvres petites créatures imperceptibles. Seules, aucune d'elles ne serait entendue. Toutes ensemble, elles se font entendre. Vous êtes aussi cachés sous l'herbe. Pourquoi n'en sort-il aucune voix? Quand on veut passer une rivière rapide, on se forme en une longue file sur deux rangs. Et, rapprochés de la sorte, ceux qui n'auraient pu isoler des autres, résister à la force des eaux, la surmonte sans peine. Faites ainsi, et vous romprez le cours de l'iniquité qui vous emporte lorsque vous êtes seul et vous jette brisé sur la rive. Que vos résolutions soient lentes mais fermes. Ne vous laissez aller ni à un premier ni à un second mouvement. Mais si l'on a commis contre vous quelque injustice, commencez par bannir tout sentiment de haine de votre cœur. Et puis, levant les mains et les yeux en haut, dites à votre Père qui est dans les cieux. Ô Père, vous êtes le protecteur de l'innocent et de l'opprimé, car c'est votre amour qui a créé le monde, et c'est votre justice qui le gouverne. Vous voulez qu'elle règne sur la terre, et le méchant y oppose sa volonté mauvaise. C'est pourquoi nous avons résolu de combattre le méchant. Ô Père, donnez le conseil à notre esprit et la force à nos bras. Quand vous aurez ainsi prié du fond de votre âme, combattez et ne craignez rien. Si d'abord la victoire paraît s'éloigner de vous, ce n'est qu'une épreuve, elle reviendra, car votre sang sera comme le sang d'Abel égorgé par Caïn, et votre mort comme celle des martyrs. 13. C'était dans une nuit sombre. Un ciel sans astres pesait sur la terre, comme un couvercle de marbre noir sur un tombeau. Et rien ne troublait le silence de cette nuit, si ce n'est un bruit étrange, comme d'un léger battement d'ailes, que de fois à autre on entendait au-dessus des campagnes et des cités. Et alors les ténèbres s'épaississaient, et chacun sentait son âme se serrer, et le frisson courir dans ses veines. Et dans une salle tendue de noir et éclairée d'une lampe rougeâtre, cet homme vêtu de pourpre, et la tête sainte d'une couronne, était assis sur 7 sièges de fer. Et au milieu de la salle s'élevait un trône composé d'ossements, et au pied du trône, en guise d'escabeau, était d'un crucifix renversé, et devant le trône une table d'ébène, et sur la table un vase plein de sang rouge et écumeux, et un crâne humain. Et les 7 hommes couronnés paraissaient pensifs et tristes, et du fond de son orbite creux, leur œil, de temps en temps, laissait échapper des étincelles d'un feu livide. Et l'un d'eux s'étant levé, s'approcha du trône en chancelant et mit le pied sur le crucifix. À ce moment, ses membres tremblèrent et il sembla près de défaillir. Les autres le regardaient immobile. Ils ne firent pas le moindre mouvement, mais je ne sais quoi passa sur leur front, et un sourire qui n'est pas de l'homme contracta leurs lèvres. Et celui qui avait semblé près de défaillir étendit la main, saisit le vase plein de sang et en versa dans le crâne et le but. Et cette boisson parut le fortifier. Et, dressant la tête, ce cri sortit de sa poitrine comme un sourd râlement. Maudit soit le Christ qui a ramené sur la terre la liberté. Et les six autres hommes couronnés se levèrent tous ensemble, et tous ensemble poussèrent le même cri. Maudit soit le Christ qui a ramené sur terre la liberté. Après quoi, s'étant rassis sur leur siège de fer, le premier dit « Mes frères, que ferons-nous pour étouffer la liberté? Car notre règne est fini si le sien commence. Notre cause est la même. Que chacun propose ce qui lui semblera bon. Voici pour moi le conseil que je donne. Avant que le Christ vînt, qui se tenait debout devant nous? C'est sa religion qui nous a perdus. Abolissons la religion du Christ. » Et tous répondirent, « Il est vrai. Abolissons la religion du Christ. » Et un second s'avança vers le trône, prit le crâne humain, y versa du sang, le but, et dit ensuite, « Ce n'est pas la religion seulement qu'il faut abolir, mais encore la science et la pensée. Car la science veut connaître ce qu'il n'est pas bon pour nous que l'homme sache. Et la pensée est toujours prête à regimber contre la force. » Et tous répondirent, « Il est vrai, abolissons la science et la pensée. » Et ayant fait ce qu'avaient fait les deux premiers, un troisième dit, « Lorsque nous aurons replongé des hommes dans l'abrutissement, en leur ôtant et la religion, et la science, et la pensée, nous aurons fait beaucoup, mais il nous restera quelque chose encore à faire. La brute a des instincts et des sympathies dangereuses. Il faut qu'aucun peuple n'entende la voix d'un autre peuple, de peur que si celui-là se plaint et remue, celui-ci ne soit tenté de l'imiter. Qu'aucun bruit du dehors ne pénètre chez nous. » Et tous répondirent, « Il est vrai, qu'aucun bruit du dehors ne pénètre chez nous. » Et un quatrième dit, « Nous avons notre intérêt, et les peuples ont aussi leur intérêt opposé au nôtre, s'ils s'unissent pour défendre contre nous cet intérêt. Comment leur résisterons-nous ? Divisons pour régner. Créons à chaque province, à chaque ville, à chaque hameau, un intérêt contraire à celui des autres hameaux, des autres villes, des autres provinces. De cette manière, tous se haïront et ils ne songeront pas à s'unir contre nous. » Et tous répondirent, « Il est vrai, divisons pour régner. La concorde nous tuerait. » Et un cinquième, ayant deux fois rempli de sang et vidé deux fois le crâne humain, dit « J'approuve tous ces moyens. Ils sont bons, mais insuffisants. Faites des brutes, c'est bien, mais effrayez ces brutes. Frappez-les de terreur par une justice inexorable et par des supplices atroces si vous ne voulez pas, tôt ou tard, en être dévorés. Le bourreau est le premier ministre d'un bon prince. » Et tous répondirent, « Il est vrai, le bourreau est le premier ministre d'un bon prince. Et un sixième dit « Je reconnais l'avantage des supplices prompts, terribles, inévitables. Cependant, il y a des âmes fortes et des âmes désespérées qui bravent les supplices. Voulez-vous gouverner aisément les hommes ? Amollissez-les par la volupté. La vertu ne nous vaut rien, elle nourrit la force. Épuisons-la plutôt par la corruption. » Et tous répondirent « Il est vrai, épuisons la force et l'énergie et le courage par la corruption. » Alors le septième, ayant comme les autres bu dans le crâne humain, parla de la sorte, les pieds sur le crucifix. Plus de Christ, il y a guerre à mort, guerre éternelle entre lui et nous. Mais comment détacher de lui les peuples ? C'est une tentative vaine. Que faire donc ? Écoutez-moi. Il faut gagner les prêtres du Christ avec des biens, des honneurs et de la puissance. Et ils commanderont au peuple, de la part du Christ, de nous être soumis en tout, quoi que nous fassions, quoi que nous ordonnions. Et le peuple les croira, et il obéira par conscience, et notre pouvoir sera plus affermi qu'auparavant. Et tous répondirent « Il est vrai, gagnons les prêtres du Christ !» Et tout à coup, la lampe qui éclairait la salle s'éteignit, et les sept hommes se séparèrent dans les ténèbres. Et il fut dit à un juste qui, en ce moment, veillait et priait devant la croix. « Mon jour approche, adore et ne crains rien. » 14. Et à travers un brouillard gris et lourd, je vis, comme on voit sur la terre à l'heure du crépuscule, une plaine nue, déserte et froide. Au milieu, s'élevait un rocher, d'où tombait goutte à goutte une eau noirâtre. Et le bruit faible et sourd des gouttes qui tombaient était le seul bruit qu'on entendit. Et sept sentiers, après avoir serpenté dans la plaine, venaient aboutir au rocher. Et près du rocher, à l'entrée de chacun, était une pierre recouverte de je ne sais quoi d'humide et de vert, semblable à la bave d'un reptile. Et voilà sur l'un des sentiers, j'aperçus comme une ombre qui lentement se mouvait. Et peu à peu, l'ombre s'approchant, je distinguais non pas un homme, mais la ressemblance d'un homme. Et à l'endroit du cœur, cette forme humaine avait une tache de sang. Et elle s'assit sur la pierre humide et verte, et ses membres grelottaient. Et la tête penchée, elle se serrait avec ses bras, comme pour retenir un reste de chaleur. Et par les six autres sentiers, six autres ombres successivement arrivèrent au pied du rocher. Et chacune d'elles, grelottant et se serrant avec ses bras, s'assit sur la pierre humide et verte. Et elles étaient là, silencieuses et courbées sous le poids d'une incompréhensible angoisse. Et leur silence dura longtemps, je ne sais combien de temps, car le soleil ne se lève jamais sur cette plaine. On n'y connaît ni soir ni matin. Les gouttes d'eau noirâtre y mesurent seules, en tombant, une durée monotone, obscure, pesante, éternelle. Et cela était si horrible à voir que, si Dieu ne m'avait fortifié, je n'aurais pu en soutenir la vue. Et après une sorte de frissonnement convulsif, une des ombres, soulevant sa tête, fit entendre un son, comme le son rauque et sec du vent qui bruit dans un squelette. Et le rocher renvoya cette parole à mon oreille. « Le Christ a vaincu. Maudit soit-il !» Et les six autres ombres tressaillirent, et toutes ensemble, soulevant la tête, le même blasphème sortit de leur sein. Le Christ a vaincu, maudit soit-il. Et aussitôt, elles furent saisies d'un tremblement plus fort. Le brouillard s'épaissit, et pendant un moment, l'eau noirâtre cessa de couler. Et les sept ombres avaient plié de nouveau sous le poids de leur angoisse secrète. Il y eut un second silence, plus long que le premier. Ensuite, une d'elles, sans se lever de sa pierre, immobile et penchée, dit aux autres « Il vous est donc advenu ainsi qu'à moi ? Que nous ont servi tous nos conseils ?» Et un autre reprit « La foi et la pensée ont brisé les chaînes des peuples. La foi et la pensée ont affranchi la terre. » Et une autre dit « Nous voulions diviser les hommes, et notre oppression les a unis contre nous. » Et une autre « Nous avons versé le sang, et ce sang est retombé sur nos têtes. » Et une autre, nous avons semé la corruption, et elle a germé en nous, et elle a dévoré nos os. Et une autre, nous avons cru étouffer la liberté, et son souffle a desséché notre pouvoir jusqu'en sa racine. Alors la septième ombre, le Christ a vaincu. « Maudit soit-il !» Et tous d'une seule voix répondirent « Le Christ a vaincu, maudit soit-il !» Et je vis une main qui s'avançait. Elle trempa le doigt dans l'eau noirâtre dont les gouttes mesurent en tombant la durée éternelle, en marqua au front les sept ombres. Et ce fut pour jamais. 15. Vous n'avez qu'un jour à passer sur la terre. Faites en sorte de le passer en paix. La paix est le fruit de l'amour. Car pour vivre en paix, il faut savoir supporter bien des choses. Nul n'est parfait. Tous ont leurs défauts. Chaque homme pèse sur les autres. Et l'amour seul rend ce poids léger. Si vous ne pouvez supporter vos frères, comment vos frères vous supporteront-ils? Il est écrit du fils de Marie, « Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. » Aimez donc vos frères qui sont dans le monde, et aimez-les jusqu'à la fin. L'amour est infatigable, il ne se lasse jamais. L'amour est inépuisable, il vit et renaît de lui-même. Et plus il s'épanche, plus il surabonde. Qui s'aime plus que son frère n'est pas digne du Christ mort pour ses frères. Avez-vous donné vos biens? Donnez encore votre vie, et l'amour vous rendra tout. Je vous le dis en vérité, celui qui aime, son cœur est un paradis sur la terre. Il a Dieu en soi. Car Dieu est amour. L'homme vicieux n'aime point, il convoite, il a faim et soif de tout. Son œil, tel que l'œil du serpent, fascine et attire, mais pour dévorer. L'amour repose au fond des âmes pures, comme une goutte de rosée dans le calice d'une fleur. Oh, si vous saviez ce que c'est qu'aimer! Vous dites que vous aimez, et beaucoup de vos frères manquent de pain pour soutenir leur vie, de vêtements pour couvrir leurs membres nus, d'un toit pour s'abriter, d'une poignée de paille pour dormir dessus, tandis que vous avez toutes choses en abondance. Vous dites que vous aimez, et il y a, en grand nombre, des malades qui languissent, privés de secours sur leur pauvre couche, des malheureux qui pleurent sans que personne pleure avec eux, des petits-enfants qui s'en vont tout transis de froid, de porte en porte, demander aux riches une miette de leur table, et qui ne l'obtiennent pas. Vous dites que vous aimez vos frères, et que feriez-vous donc si vous les haïssiez? Et moi, je vous le dis, quiconque le pouvant ne soulage pas son frère qui souffre est l'ennemi de son frère. Et quiconque le pouvant ne nourrit pas son frère qui a faim est son meurtrier. 16. Il se rencontre des hommes qui n'aiment point Dieu et qui ne le craignent point. Fuyez-les, car il sort d'eux une vapeur de malédiction. Fuyez l'impie, car son haleine tue, mais ne le haïssez pas, car qui sait si déjà Dieu n'a pas changé son cœur. L'homme qui, même de bonne foi, dit « je ne crois point », se trompe souvent. Il y a bien avant, dans l'âme, jusqu'au fond, une racine de foi qui ne sèche point. La parole qui nie Dieu brûle les lèvres sur lesquelles elle passe, et la bouche qui s'ouvre pour blasphémer est un soupirail de l'enfer. L'impie est seul dans l'univers. Toutes les créatures louent Dieu. Tout ce qui sent le bénit, tout ce qui pense l'adore. L'astre du jour et ceux de la nuit le chantent dans leur langue mystérieuse. Il a écrit au firmament son nom, trois fois saint. Gloire à Dieu dans les hauteurs des cieux. Il l'a écrit aussi dans le cœur de l'homme, et l'homme bon l'y conserve avec amour, mais d'autres tâchent de l'effacer. Paix sur la terre aux hommes dont la volonté est bonne. Leur sommeil est doux, et leur mort est encore plus douce, car ils savent qu'ils retournent vers leur père. Comme le pauvre laboureur, au déclin du jour, quitte les champs, regagne sa chaumière et, assis devant la porte, oublie ses fatigues en regardant le ciel, ainsi, quand le soir se fait, l'homme d'espérance regagne avec joie la maison paternelle et, assis sur le seuil, oublie les travaux de l'exil dans les visions de l'éternité. 17. Deux hommes étaient voisins, et chacun d'eux avait une femme et plusieurs petits-enfants, et son seul travail pour les faire vivre. Et l'un de ces deux hommes s'inquiétait en lui-même, disant « Si je meurs ou que je tombe malade, que deviendront ma femme et mes enfants ?» Et cette pensée ne le quittait point, et elle rongeait son cœur comme un ver ronge le fruit où il est caché. Or, bien que la même pensée fût venue également à l'autre père, il ne s'y était point arrêté, car, disait-il, Dieu qui connaît toutes ses créatures et qui veille sur elles, veillera aussi sur moi et sur ma femme et sur mes enfants. Et celui-ci vivait tranquille, tandis que le premier ne goûtait pas un instant de repos ni de joie intérieurement. Un jour qu'il travaillait au champ, triste et abattu à cause de sa crainte, il vit quelques oiseaux entrer dans un buisson, en sortir, et puis bientôt y revenir encore. Et s'étant approché, il vit deux nids posés côte à côte, et dans chacun plusieurs petits nouvellement éclos et encore sans plumes. Et quand il fut retourné à son travail, de temps en temps il levait les yeux et regardait ces oiseaux qui allaient et venaient, portant la nourriture à leurs petits. Or, voilà qu'au moment où l'une des mères rentrait avec sa béquée, un vautour la saisit, l'enlève, et la pauvre mère, se débattant vainement sous sa serre, jetait des cris perçants. À cette vue, l'homme qui travaillait sentit son âme plus troublée qu'auparavant. Car, pensait-il, la mort de la mère, c'est la mort des enfants. Les miens n'ont que moi non plus. Que deviendront-ils si je leur manque ? Et tout le jour, il fut sombre et triste, et la nuit ne dormit point. Le lendemain, de retour au champ, il se dit « Je veux voir les petits de cette pauvre mère. Plusieurs, sans doute, ont déjà péri. » Et il s'achemina vers le buisson. En regardant, il vit les petits bien portants. Pas un ne semblait avoir pâti. Et, ceci l'ayant étonné, il se cacha pour observer ce qui se passerait. Et, après un peu de temps, il entendit un léger cri. Et il aperçut la seconde mère, rapportant en hâte la nourriture qu'elle avait recueillie. Et elle distribua à tous les petits, indistinctement, et il y en eut pour tous. Et les orphelins ne furent point délaissés dans leur misère. Et le père, qui s'était défié de la Providence, raconta le soir à l'autre père ce qu'il avait vu. Et celui-ci lui dit « Pourquoi s'inquiéter ? Jamais Dieu n'abandonne les siens. Son amour a des secrets que nous ne connaissons point. Croyons, espérons, aimons et poursuivons notre route en paix. Si je meurs avant vous, vous serez le père de mes enfants. Si vous mourrez avant moi, je serai le père des vôtres. Et si l'un et l'autre, nous mourrons avant qu'ils soient en âge de pourvoir eux-mêmes à leurs nécessités, ils auront pour père le Père qui est dans les cieux. » 18. Quand vous avez prié, ne sentez-vous pas votre cœur plus léger et votre âme plus contente? La prière rend l'affliction moins douloureuse et la joie plus pure. Elle mêle à l'une je ne sais quoi de fortifiant et de doux, autre un parfum céleste. Que faites-vous sur la terre? Et n'avez-vous rien à demander à celui qui vous y a mis? Voyageurs qui cherchent la patrie, ne marchez point la tête baissée. Il faut lever les yeux pour reconnaître sa route. Votre patrie, c'est le ciel. Et quand vous regardez le ciel, est-ce qu'en vous il ne se remue rien? Est-ce que nul désir ne vous presse? Ou ce désir est-il muet? Il en est qui disent « À quoi bon prier ? Dieu est trop au-dessus de nous pour écouter de si chétives créatures. » Et qui donc a fait ces créatures chétives? Qui leur a donné le sentiment et la pensée et la parole, si ce n'est Dieu? Et s'il a été bon envers elles, était-ce pour les délaisser ensuite et les repousser loin de lui? En vérité, je vous le dis, quiconque dit dans son cœur que Dieu méprise ses œuvres, blasphème Dieu. Il en est d'autres qui disent « À quoi bon prier? Dieu ne sait-il pas mieux que nous ce dont nous avons besoin ? » Dieu sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Et c'est pour cela qu'il veut que vous le lui demandiez. Car Dieu est lui-même votre premier besoin. Et prier Dieu, c'est commencer à posséder Dieu. Le Père connaît les besoins de son Fils. Faut-il, à cause de cela, que le Fils n'ait jamais une parole de demande et d'action de grâce pour son Père? Quand les animaux souffrent, quand ils craignent ou quand ils ont faim, ils poussent des cris plaintifs. Ces cris sont la prière qu'ils adressent à Dieu, et Dieu l'écoute. L'homme serait-il donc dans la création le seul être dont la voix ne dut jamais monter à l'oreille du Créateur? Il passe quelquefois sur les campagnes un vent qui dessèche les plantes. Et alors on voit leurs tiges flétries, penchées vers la terre. Mais humectées par la rosée, elles reprennent leur fraîcheur et relèvent leur tête languissante. Il y a toujours des vents brûlants qui passent sur l'âme de l'homme et la dessèchent. La prière est la rosée qui la rafraîchit. 19. Vous n'avez qu'un Père qui est Dieu et qu'un Maître qui est le Christ. Quand donc on vous dira de ceux qui possèdent sur la terre une grande puissance, voilà vos maîtres, ne le croyez point. S'ils sont justes, ce sont vos serviteurs. S'ils ne le sont pas, ce sont vos tyrans. Tous naissent égaux. Nul en venant au monde n'apporte avec lui le droit de commander. J'ai vu dans un berceau un enfant criant et bavant, et autour de lui étaient des vieillards qui lui disaient « Seigneur » et qui, s'agenouillant, l'adoraient. Et j'ai compris toute la misère de l'homme. C'est le péché qui a fait les princes, parce qu'au lieu de s'aimer et de s'aider comme des frères, les hommes ont commencé à se nuire les uns aux autres. Alors, parmi eux, ils en choisirent un ou plusieurs qu'ils croyaient les plus justes, afin de protéger les bons contre les méchants, et que le faible pût vivre en paix. Et le pouvoir qu'ils exerçaient était un pouvoir légitime, car c'était le pouvoir de Dieu qui veut que la justice règne, et le pouvoir du peuple qui les avait élus. Et c'est pourquoi chacun était tenu en conscience de leur obéir. Mais il s'en trouva aussi bientôt qu'ils voulurent régner par eux-mêmes, comme s'ils eussent été d'une nature plus élevée que celle de leurs frères. Et le pouvoir de ceux-ci n'est pas légitime, car c'est le pouvoir de Satan, et leur domination est celle de l'orgueil et de la convoitise. Et c'est pourquoi, lorsqu'on n'a pas à craindre qu'il en résulte plus de mal, chacun peut, et quelquefois doit en conscience, leur résister. Dans la balance du droit éternel, votre volonté pèse plus que la volonté des rois, car ce sont les peuples qui font les rois, et les rois sont faits pour les peuples, et les peuples ne sont pas faits pour les rois. Le Père céleste n'a point formé les membres de ses enfants pour qu'ils fussent brisés par des fers, ni leur âme pour qu'elle fût meurtrie par la servitude. Il les a unis en famille, et toutes les familles sont sœurs. Il les a unis en nations, et toutes les nations sont sœurs. Et quiconque sépare les familles des familles, les nations des nations, divise ce que Dieu a uni, il fait l'œuvre de Satan. Et ce qui unit les familles aux familles, les nations aux nations, c'est premièrement la loi de Dieu, la loi de justice et de charité, et ensuite la loi de liberté, qui est aussi la loi de Dieu. Car sans la liberté, quelle union existerait-il entre les hommes? Ils seraient unis comme un cheval est uni à celui qui le monte, comme le fouet du maître à la peau de l'esclave. Si donc quelqu'un vient et dit « Vous êtes à moi », répondez « Non, nous sommes à Dieu qui est notre Père et au Christ qui est notre seul Maître. » 20. Ne vous laissez pas tromper par de vaines paroles. Plusieurs chercheront à vous persuader que vous êtes vraiment libre parce qu'ils auront écrit sur une feuille de papier le mot de liberté et l'auront affiché à tous les carrefours. La liberté n'est pas un placard qu'on lit au coin de la rue. Elle est une puissance vivante qu'on sent en soi et autour de soi, le génie protecteur du foyer domestique, la garantie des droits sociaux et le premier de ses droits. L'oppresseur qui se couvre de son nom est le pire des oppresseurs. Il joint le mensonge à la tyrannie et à l'injustice la profanation, car le nom de la liberté est saint. Gardez-vous donc de ceux qui disent « Liberté, liberté » et qui la détruisent par leurs œuvres. Est-ce vous qui choisissez ceux qui vous gouvernent, qui vous commandent de faire ceci ou de ne pas faire cela, qui imposent vos biens votre industrie, votre travail? Et si ce n'est pas vous, comment êtes-vous libre? Pouvez-vous exercer votre culte sans gêne, adorer Dieu et le servir publiquement selon votre conscience? Et si vous ne le pouvez pas, comment êtes-vous libre? Pouvez-vous disposer de vos enfants comme vous l'entendez, confier à qui vous plaît le soin de les instruire et de former leurs mœurs? Et si vous ne le pouvez pas, comment êtes-vous libre? Les oiseaux du ciel et les insectes même s'assemblent pour faire en commun ce qu'aucun d'eux ne pourrait faire seul. Pouvez-vous vous assembler pour traiter ensemble de vos intérêts, pour défendre vos droits, pour obtenir quelque soulagement à vos maux? Et si vous ne le pouvez pas, comment êtes-vous libre? Pouvez-vous aller d'un lieu à l'autre si on vous le permet? User des fruits de la terre et des productions de votre travail? Tremper votre doigt dans l'eau de mer et en laisser tomber une goutte dans le pauvre vase de terre où cuisent vos aliments sans vous exposer à payer l'amende et à être traîné en prison? Et si vous ne le pouvez pas, comment êtes-vous libre? Pouvez-vous, en vous couchant le soir, vous répondre qu'on ne viendra point durant votre sommeil fouiller les lieux les plus secrets de votre maison, vous arracher du sein de votre famille et vous jeter au fond d'un cachot, parce que le pouvoir, dans sa peur, se sera défié de vous? Et si vous ne le pouvez pas, comment êtes-vous libre? La liberté luira sur vous quand, à force de courage et de persévérance, vous vous serez affranchi de toutes ces servitudes. La liberté luira sur vous quand vous aurez dit, au fond de votre âme, « Nous voulons être libres », quand, pour le devenir, vous serez prêt à sacrifier tout et à tout offrir. La liberté luira sur vous lorsqu'au pied de la croix sur laquelle le Christ mourut pour vous, vous aurez juré de mourir les uns pour les autres.